que tant qu'on n'a pas interdit les perturbateurs endocriniens, et moi là je vous invite tous, tant que vous aurez lu mon livre, vous avez vraiment tous les arguments, parce que moi ce que je veux, c'est que vous soyez vos propres experts, que vous ayez les arguments. Il faut ensuite interpeller les pouvoirs politiques, les politiques, les députés, les pauvres députés, parce que là-bas, il y a encore des hommes politiques. Il faut les interdire, mais tant qu'on ne les aura pas interdits, je m'adresse en particulier aux femmes enceintes, il faut vraiment être très prudent, éviter tous les produits plastiques, les boîtes de conserve, les manger bio, et je vous dis, c'est pas une catastrophe, ce que je suis en train de dire, c'est ce que montrent les études, notamment faites en laboratoire.
On le sent bien dans le livre, d'ailleurs, vous essayez de nous expliquer, d'ailleurs très bien, qu'on est en situation d'urgence. Ça urge grave, quoi. On n'a pas le temps. À ce stade, Marie-Louis, j'ai demandé à la salle de vous enrouler encore, on continue, vous en avez assez, de votre dose, admissible, acceptable. Pardon,
vous voudriez boire.
D'accord.
Champagne bleu.
Voilà, il a fait un geste, elle boit dans un verre en verre, moi je bois dans un verre en plastique. Et là,
condamné.
Il y a un perturbateur endocrinien, mais rassurez-vous. Tiens, j'ai noté aussi qu'une autre statistique, c'est parce que si on doit interpeller, on se sent bien concerné. Messieurs, je ne parle qu'à vous. Nous avons perdu, nous tous, nous les hommes, 50% de nos spermatozoïdes dans 50 ans.
Oui, oui. Alors ça, c'est un fait établi que personne ne dit.
C'est pas par la masturbation.
Non,
oui, c'est, ça n'a rien à voir avec la masturbation, effectivement. Nous avons perdu. Mais il vaut mieux en rien. Donc, il y a eu 50% de blagues à part, c'est effrayant, quoi, ça va être mort.
Oui, alors ça, c'est un fait complètement établi que personne ne nie. Toutes les études faites partout dans le monde, et notamment il y en a une qui a été faite à Paris, où on a été bien passé parce qu'on avait, les séquences, vous savez justement les hommes qui ont donné leur spermatozoïde, et on a suffisamment de recul maintenant, et on a, ça se mesure, hein, la quantité de sperme qu'il y a dans un vagin, ça se mesure, et on a, enfin, vous, messieurs, vous avez perdu 50%. Et non seulement on a perdu 50%, mais ceux qui vous restent ne sont pas de bonne qualité. Ce qui expliquerait, alors oui, ils ont des problèmes, ils sont mal formés, etc. Ce qui expliquerait d'ailleurs, parce que il suffit de faire un petit peu. Les femmes qui sont là, avec vos gynécologues, parlez-en avec eux. Moi, j'ai même depuis, j'ai trois filles qui sont adolescentes, mais j'ai même depuis 25 ans. Il m'a dit, ah, Monique, je parlais bien également, il me dit, quand tu venais me voir, ma fille est née à 20 ans, les problèmes d'infertilité, c'était en général, on considérait que c'était les femmes. Et aujourd'hui, moi, les couples qui me viennent pour des problèmes de stérilité ou d'infertilité, c'est-à-dire pas forcément stérilité définitive, mais du mal à avoir des enfants, qu'on connaît tous, j'imagine, eh bien, il dit, maintenant, je fais faire un examen des hommes, et c'est le problème, c'est les hommes. Il m'ouvre son tiroir, et puis il me montre tous les problèmes de... Il me dit, voilà, t'as vu, ils ont tous des problèmes, tous ces jeunes gens, ils ont 30 ans, ils ont des mauvais, enfin, très peu de spermatozoïdes par rapport à ce qu'avait leur père, leur grand-père, et ils ont plus de mauvaise qualité. Et il me dit aussi, et c'est un gynécologue qui est place à Paris, dans un très bon cabinet, en plus, j'ai constaté une reconnaissance des fausses couches, parce qu'ils sont quand même, ces spermatozoïdes mal foutus, ils en sont quand même dans les ovules, mais après, ça ne va pas loin, si vous voulez. Et il m'a dit, j'ai jamais constaté, de ta génération, il y avait beaucoup moins de fausses couches qu'il y a aujourd'hui, et c'est dû à ça. Ils sont quand même fécondants, si vous voulez, mais ils sont mal vus. Ça se déclenche des fausses couches à 4 semaines ou à 5 semaines, très précoces. Hein. Ça, c'est un signe. Et quand je dis tout à l'heure que pour la première fois de ma vie, ça fait 25 ans que je fais ce métier, et j'ai vu pas mal de choses assez graves dans ce mouvement, mais là, c'est la première fois que je suis arrivée à une enquête en me disant il y a urgence. Parce que quand vous parlez de ce phénomène du problème de la reproduction, qui est quand même pas rien, n'est-ce pas? Eh bien, les scientifiques vous disent qu'on a perdu 50% des hommes de la spermatozoïde dans 50 ans. Si on ne fait rien, eh bien, dans 50 ans, le mode de reproduction le plus courant, ce sera in vitro. 50 ans, c'est l'âge que j'ai, quoi. C'est rien. C'est vraiment demain. Et ça, c'est les perturbateurs endocriniens. Tout indique, alors on le sait par les études faites sur des animaux, que donc les mères ont été exposées, enfin, pendant leur grossesse, et l'impact donc s'est fait ressentir ensuite sur les garçons. Et il y a, on appelle ça le syndrome de dysgénésie, enfin c'est un peu dans un terme compliqué, en tout cas c'est un syndrome avec plusieurs symptômes. L'un des symptômes, c'est ce qu'on a, c'est la prévalence accrue des garçons qui naissent avec des testicules non descendus, c'est un premier symptôme. Ensuite, il y a le problème de l'hypospadia, qui est de malformation congénitale. Ensuite, il y a le problème du cancer des testicules, qui est le cancer le plus en explosion dans le monde, qui est très très rare, mais qui est maintenant beaucoup plus courant, qui frappe les hommes jeunes. Le problème de la stérilité et du cancer de la prostate. Donc, tout un ensemble. D'ailleurs, il est recommandé, vous verrez ça dans mon livre, un scientifique qui a beaucoup travaillé là-dessus au Danemark, il est recommandé aux hommes qui ont des problèmes pour avoir des enfants de se faire suivre, parce que très souvent, ça se finit par avoir un cancer des testicules 15 ou 20 ans plus tard. Et on a constaté que dans les... c'est ce que m'explique ce médecin, au Danemark, il s'appelle Nils Skakebæk, c'est vraiment celui qui a révélé pour la première fois cette baisse des spermatozoïdes dans les pays occidentaux. Il a suivi des hommes qui venaient le voir pour des problèmes de stérilité. Il a fait des biopsies, enfin j'ai pas anglais, je sais pas pourquoi, les biopsies des testicules, et il a constaté qu'ils avaient dans leurs testicules des cellules germinales qu'on ne trouve que dans les fœtus. Donc tout indique que ces cellules germinales n'ont pas pu évoluer vers ce qu'elles auraient dû être si elles étaient des cellules matures, productrices de spermatozoïdes, parce qu'elles ont été stoppées par quelque chose. Et lui dit, c'est stoppé par l'hormone de synthèse qui a pris la place de l'hormone qui aurait dû faire évoluer ces cellules. Voilà. Et on les retrouve dans les testicules d'hommes adultes. Et en suivant ces hommes qui avaient des problèmes de stérilité, hein, sur le long terme, il a constaté que ces cellules germinales fœtales qu'on retrouve dans les testicules de ces hommes évoluent ensuite vers des cellules cancéreuses du testicule. Vous voyez, c'est un bon travail et qui a été vérifié ensuite sur des animaux. On a fait le même processus pour, et voilà. Donc je vous dis, quand il y a urgence, parce que c'est comme la reproduction de l'espèce humaine, c'est pas rien, et penser que 50 ans c'est un demi-siècle, c'est rien du tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment urgence.
Il y a vraiment urgence, c'est terrible. Madame, vous vouliez poser une question depuis longtemps. Je vous le parlez fort parce que nous sommes très nombreux, on ne peut pas en passer.
Je voulais savoir justement,
si vous parlez avec vos médecins, peut-être qu'ils vont vous dire oui, il y a plus de cancer, en général, ils ne le disent pas. Hein. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout formés, les médecins. Il n'y a même pas de chaire de santé environnementale encore dans les universités de médecine, et pas du tout formé à la prévention, parce que vraiment, si moi j'ai des médecins, j'ai une femme enceinte devant moi, j'ai vraiment des recommandations très précises à donner aux femmes enceintes, en attendant que c'est pour lui, ils ne sont pas encore retirés du marché. Et ils constatent, voilà, c'est tout. Il y a un vrai problème de formation dans ce domaine. Et certains ont rejoint le réseau environnement santé que je vous invite à soutenir parce qu'ils ont besoin de volontaires, donc mon film est sorti, vous savez, dans André Sicolella, qui est un toxicologue qui fait un très bon travail, qui essaie de mettre en relation des médecins et de contacter le monde politique, donc c'est un très bon travail, mais c'est encore très difficile pour eux. Ils sont dans une logique curative toujours, d'aller des médicaments.
Ah non. Madame, je traduis pour les gens du champ de médecin, les médecins ne sont pas dans la dénonciation.
Non, ils vont constater. Moi, je suis à la fois à Paris et en même temps en province parce que mes parents ont une ferme dans les Deux-Sèvres, dans le Poitou-Charentes. Quand vous parlez avec les médecins locaux, ils vont vous dire oh, c'est vrai. Les cancers de la prostate, par exemple, j'en parlais récemment avec les médecins de mes parents, ils disent il y en a partout dans les fermes, justement, les cancers de la prostate. C'est normal parce que les agriculteurs ont été exposés à des perturbateurs endocriniens, hein, à des pesticides, notamment, mais c'est pas qu'ils seuls, hein, parce que les perturbateurs endocriniens, c'est aussi les poils anti-adhésifs, hein, tout ce qui est téflon, téfal, etc. Hein, tout ça peut être bête, hein, évidemment. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Donc quand on vous dit qu'il ne faut pas gratter les poils téfal, c'est notamment parce que c'est cancérigène, et en plus c'est perturbateur endocrinien. Donc voilà. Donc, ils constatent, mais ils sont pas. Mais parce qu'il n'y a pas de formation, vous voyez.
Marie-Monique, je suis désolé, on est obligé d'arrêter. On est obligé d'arrêter parce qu'on fait signe. Le temps est passé, mais je sais qu'on a 1000 questions, mais j'en suis navré. Allez, une dernière. Madame, levez la main bien avant, je suis désolé, monsieur. Madame, essayez de parler fort.
Les actions juridiques sont menées pour ça, pour établir le cadre.
Les actions génétiques, alors qu'est-ce qu'on peut faire?
Ça, c'est très difficile pour une raison très simple. D'abord, parce que comme je le disais, prenons le cas du cancer du sein. Si une femme a un cancer du sein, il y a plein de produits qui ont pu lui provoquer son cancer du sein. Tout ces perturbateurs endocriniens, il y a partout. Le problème, c'est ça, c'est comment établir la relation entre un produit donné et une maladie. Alors, les agriculteurs dont je parlais d'ailleurs, viennent créer cette association, ils sont malades, ils ont des maladies qui sont reconnues comme maladies professionnelles, et leur but, c'est de s'organiser pour porter plainte collectivement, et pour faire avancer, on va d'abord leur dire que c'est pas possible, etc. Mais aux États-Unis, il y a un exemple très intéressant que je raconte dans mon livre, vous avez tous entendu parler d'un produit qui s'appelait le Distibel, un médicament qui a été donné aux femmes, soi-disant pour prévenir les fausses couches, et qui s'est avéré extrêmement dangereux, c'est le modèle des perturbateurs endocriniens. C'est pour ça qu'on peut vraiment agir vite, parce que pour la première fois, c'est très rare d'avoir des données à la fois sur les humains, parce que maintenant, on connaît les filles et les garçons nés des mamans qui ont pris le médicament, et leurs petits-enfants, parce que ces molécules, c'est ça à côté, excusez-moi, ça pourrait être très mauvaise nouvelle, non seulement elles perturbent le bébé, mais ils ont des effets transgénérationnels à la quatrième génération. C'est-à-dire qu'on transmet de génération en génération les problèmes. Et pour le Distibel, on en est aux observations sur les petits-enfants, voire arrière-petits-enfants des femmes qui ont été exposées dans les années 40 et 50. Donc là, les femmes ont réussi, les victimes du Distibel, les filles, on les appelle les filles et les fils du Distibel aux États-Unis, ont réussi à faire avancer la jurisprudence aux États-Unis. Parce qu'en général, elle était déboutée par les tribunaux, parce que le Distibel a été fabriqué par au moins 200 fabricants, il y avait plein de marques différentes. Et les mères, parfois, ne se souvenaient plus, parce que qui a gardé un paquet de pilules, de médicaments, et la jurisprudence a avancé, et maintenant, vous pouvez porter plainte contre tous les fabricants de Distibel, pas besoin de prouver que c'était peut-être une telle molécule, à condition de pouvoir prouver évidemment quand même que la femme a pris le médicament, mais il faut juste se rappeler de quelle molécule il s'agissait, précisément, à quelle marque. Et en général, elle gagne, ces femmes, et les fabricants sont condamnés au prorata de la part de marché qu'ils avaient. Et ça, c'est nouveau, en termes, il y a des juristes dans la salle, il faut pencher sur ce genre de questions, parce qu'ils ont raison. Moi, je dis aujourd'hui, je dis très ouvertement, c'est pour ça que il y en a certains qui se dérangent beaucoup. Oui, voilà, il faut se battre pour qu'en France, on puisse avoir des classes action, effectivement, des actions groupées, collectives.
Ça, c'est pas gagné.
C'est pas gagné, ça fait longtemps qu'on est... Enfin, voilà, exactement. Et je dis parce que c'est... Il faut bien comprendre, hein. Vous verrez dans mon livre, c'est assez déprimant, je vous préviens hein, quand même, de voir que systématiquement, les fabricants ont caché les toxicités de leurs produits. Donc on n'est pas dans un cas où on ne sait pas, on est dans un cas où on cache. Et ça, c'est criminel.
Voilà.
Oui, c'est ce que je dis. Oui.
On arrête.
C'est comme pour le nucléaire.
C'est pareil pour le nucléaire. Mais ça, on aurait rêvé d'en parler. Bon, on va arrêter. Juste pour reboucler, alors, réponse très vite, Marie-Marie. Si vous êtes passionné, moi, je vous aurais écouté encore pendant 3 heures, vous aurez un train à prendre. C'est bête, là. On va reboucler. Quels sont les acteurs de cette tragédie au niveau humain? Alors, les industriels, ok, on l'a compris. Hein. Monnaie, ça va continuer, cling-cling, il faut que la machine tourne. On en parle. Les politiques, on y reviendra tout à l'heure, on y reviendra dans quelques instants. Il y a évidemment les experts. On pourrait parler de Tipeee ou le rituel tout à l'heure, on pourrait parler de la science, on finira pas le temps. Et revenir à une science sur le terrain, arrêter que les grosses têtes se rencontrent tout le temps entre elles, dans cette espèce de consanguinité relativement malsaine. Je dis que là, c'est un peu la rage par l'eau. Donc les experts, il va falloir les mettre au pas aussi, ceux-là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Les politiques, tant qu'on ne leur bougera pas, tant qu'on ne leur foutra pas les jetons, ils ne bougeront pas, ils le prouvent depuis 60 ans, ils restent nous, là-dedans. Et vous allez nous proposer des solutions, on l'a vu tout à l'heure, il y a 3-4 ans, dans un bouquin, vous allez nous prouver une chose, c'est pas ce soir, vous allez vous donner secret de fabrication, secret industriel, vous allez nous prouver une chose, c'est que vous allez l'écrire vite. Je sais qu'il va être bien documenté, il va encore faire 500 pages de machin, et il va falloir du temps, vous allez écrire vite, vous allez revenir, nous le représenter là, c'est promis.
Oui, bien sûr, je vais faire un prochain film et livre, donc voilà. Vous avez un de mon cartable, pour ceux que ça intéresse, là il est sous mon sac. Donc, bon d'abord c'est fatigant, hein, vous savez, de tout le temps décortiquer, etc. Je ne sais pas si vous avez vu Télérama cette semaine, il y a 3 pages sur... J'ai participé à un procès en Argentine suite à notre philologie qui s'appelle Escarron d'abord l'école française. Enfin, bref. Maintenant, je voudrais. J'ai vraiment fait le tour avec cinq films Les Pirates du Vivant, Les Chroniques du Mort Annoncé, Argentine une soirée de la fin, Le Monde selon Monsanto et Notre Poison quotidien, tout se passait sur Arte, de cette question de l'agriculture industrielle. Et voilà. Et maintenant, je voudrais faire un film et un livre qui répondent à la question que m'a posée le ministre de l'Agriculture, M. Le Maire, sur le plateau de. Je vais vous croiser. Oui, mais vous savez, c'est bien gentil tout ça, mais on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides. Alors, je vais répondre à cette question, je vais faire un film et un livre. J'ai déjà commencé à tourner parce que j'étais le 8 mars à Genève où j'ai filmé le nouveau rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation qui s'appelle Philippe Schuller, qui a succédé à Jean Ziegler et qui promeut l'agroécologie. Et donc, je vais faire le. Je vais faire ça sérieusement, hein. Je vais aller voir les économistes, les gros hommes, comme d'habitude, je vais faire le tour, je vais voir les FMI, puis je vais aller voir partout. Olivier de Schutter a présenté tout un plein d'expériences à grande échelle qui montrent qu'on peut faire autrement et qu'on peut produire des aliments en s'inscrivant dans un développement durable. Parce que je vous rappelle quand même que la révolution verte, dont on nous a promis mots et merveilles, et tous les agriculteurs y ont cru, y compris mon père, aujourd'hui, le bilan. Excusez-moi, mais il y a toujours 1 million de personnes qui ne mangent pas leur faim, 3 millions d'enfants qui meurent chaque année. L'agriculture industrielle participe pour un tiers aux effets de réchauffement de la planète. Les réserves en eau s'appauvrissent, sont contaminées, les sols sont, etc. Donc je voudrais que vous ayez maintenant des outils pour montrer qu'on peut faire autrement. Voilà.
Donc alors, il va falloir qu'on ouvre nos poches, non pour partager, souscrivez, je vous invite à le faire.
Alors je vous explique ce que c'est ça, pour que vous compreniez, tous mes films jusqu'à présent, je les ai toujours fait avec un producteur privé, à qui les images appartiennent, en fait. C'est-à-dire que moi je tourne, je suis payé, j'ai un salaire pour mon travail, mais les images appartiennent au producteur. Même pas à Arte, hein, au producteur. C'est un vrai problème parce que j'ai plein d'interviews formidables que je ne peux pas mettre en ligne, que je ne peux pas donner à une association. Voilà, parce que je ne suis pas propriétaire des images. Donc j'ai créé ma maison de production pour pouvoir être totalement indépendante. Et dans la production du prochain film avec l'accord d'Arte, je fais appel uniquement à 2500 personnes, pas plus, à une souscription qui est le préachat d'un DVD en édition spéciale qui participera à la production. Donc voilà, là si ça vous intéresse, vous avez l'info, il y aura un site internet qui va s'ouvrir et vous serez informé en temps réel de la progression du projet. L'idée étant que vous ayez très tôt des informations pour pouvoir déjà coucher avant même que le film sorte. Voilà. Alors c'est 30 euros le DVD avec des bonus, dans le tirage limité à 2500 et nous, ça nous permet d'échapper aux banques, par exemple, en termes de trésorerie. Même si, il faut savoir que le film, comme. Notre poison quotidien, ça coûte à peu près 600 000 euros à faire, maintenant, parce que c'est 11 pays.
C'est pas beaucoup quand c'est l'énorme, ils sont beaucoup de gens. On va prendre plus sérieusement dans l'article. Jean-Yves Monique et moi-même, nous sommes un bon appétit après ce